Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous lire le chapitre 5 des 8 montagnes. Chapitre un peu long qu'on va couper en deux parties. Cet enregistrement est réalisé à l'attention de tous nos anciens en EHPAD et à l'hôpital, et tous les soignants qui les accompagnent. Résumé du chapitre 4, où Piero raconte son premier conflit avec son père. Il a 16 ans et cette année-là, il refuse de suivre son père en montagne ou de camper avec lui. Cet été-là, Piero descend au village et essaie de se faire des amis parmi les vacanciers de son âge, la jeunesse dorée de Gênes ou Milan. Avec eux, il va s'initier à l'escalade. Entre-temps, Bruno est devenu maçon et travaille avec son père. Il se salue à distance, au bar du village le soir. La maman de Piero essaie de convaincre son fils de se rapprocher de son père, en vain. Et le 15 août, le père part seul à l'ascension d'un sommet. Piero, lui, trouvera sa punition en allant grimper avec ses nouveaux amis et aura la frayeur de sa vie. À la fin de l'été, Bruno vient le chercher comme quand ils étaient gamins pour aller en montagne, mais cette fois perché sur sa moto, pour essayer de retrouver les chèvres de son oncle. C'est la fin de l'été. Pour la première fois, Piero découvre la neige fraîche et comme quand ils étaient enfants, il suit les traces de Bruno. Mais ils se parlent peu, si ce n'est d'escalade et de la construction de murs. L'avenir éloignait déjà Piero de la montagne et de Bruno. Chapitre 5, première partie, des 8 montagnes de Paolo Cognetti. Mon père mourut à 62 ans, j'en avais 31. Il me fallut attendre l'enterrement pour me rendre compte que j'avais l'âge qu'il avait à ma naissance. Mes 31 années ressemblaient pourtant bien peu aux siennes. Je n'étais pas mariée, je n'étais pas entrée à l'usine, je n'avais pas fait d'enfant. Et ma vie me semblait encore à moitié celle d'un homme, à moitié celle d'un garçon. J'habitais seule dans un studio et c'était un luxe que j'avais de la peine à me permettre. J'aurais bien voulu gagner ma vie en tournant des documentaires, mais pour payer mon loyer, j'acceptais toutes sortes de petits boulots. J'habitais seule dans un studio et c'était un luxe que j'avais de la peine à me permettre. J'aurais bien voulu gagner ma vie en tournant des documentaires, mais pour payer mon loyer, j'acceptais toutes sortes de petits boulots. Moi aussi, j'étais un immigré. J'avais hérité de mes parents l'idée qu'il fallait quitter son berceau pour finir de grandir ailleurs. Et c'est ainsi qu'à 23 ans, frais et moulu de mon service militaire, j'étais partie retrouver une fille à Turin. L'histoire avec la fille n'avait pas duré. Celle avec la ville, si. Au milieu de ces vieux fleuves et de ces vieux cafés sous les arcades, je m'étais tout de suite sentie à l'aise. Je lisais Hemingway à l'époque, flânais sans un sou en poche et tâchais de rester ouvert aux rencontres, aux propositions de travail et au possible, avec la montagne comme toile de fond de mon Paris est une fête. Même si je n'y avais plus remis les pieds, la voir à l'horizon quand je sortais de chez moi me paraissait une bénédiction. 120 kilomètres de champs et de rizières me séparaient désormais de mon père. Autant dire rien, si tant est qu'on veuille les faire. Quelques années plus tôt, je lui avais causé une dernière grande déception en abandonnant l'université. Moi qui, en mathématiques, avais toujours eu les meilleures notes, lui qui avait toujours projeté pour moi un avenir similaire au sien. Mon père me dit que je gâchais ma vie. Je lui répondis que c'était lui qui avait gâché la sienne. Nous ne nous parlâmes plus pendant une année entière, celle de mes allers-retours de soldat en caserne. Et quand ils me donnèrent mon congé, je partis presque sans le saluer. Il valait mieux pour lui comme pour moi que je trace ma route, que je m'invente ailleurs une vie différente de la sienne. Et quand nous nous retrouvâmes à des kilomètres l'un de l'autre, aucun des deux ne fit plus rien pour combler la distance qui nous séparait. Avec ma mère, c'était différent. Comme je n'étais pas très bavard au téléphone, elle eut l'idée de m'écrire des lettres et fut surprise de voir que je répondais. J'aimais m'asseoir à ma table le soir, prendre une feuille et un stylo et lui raconter ce qui m'arrivait. C'est par lettre que je lui annonçais ma décision de m'inscrire à une école de cinéma. Mes premiers amis à Turin. C'est là-bas que je me les fis. Le documentaire me fascinait. Je me sentais vouée à observer et écouter. Et qu'elle me réponde « Oui, tu as toujours été douée pour ça » me confortait dans cette idée. Je savais qu'il me faudrait attendre longtemps avant de pouvoir en faire mon métier, mais ma mère m'encouragea dès le début. Pendant des années, elle me versa de l'argent et en contrepartie, je lui envoyais tout ce que je faisais. Portraits de gens et de lieux, exploration de la ville, courts-métrages que nul ne voyait, mais qui faisaient ma fierté. J'aimais la forme que commençait à prendre ma vie. C'est ce que je lui écrivais quand elle me demandait si j'étais heureux. J'évitais de répondre aux autres questions, celles sur les filles, avec qui ça ne durait jamais plus de quelques mois, parce que je me défilais dès que les choses devenaient sérieuses. « Et toi ?» écrivais-je. « Moi ça va, mais papa travaille trop. Il se ruine la santé, » répondait ma mère. Elle me parlait surtout de lui. L'usine périclitait et mon père, après 30 années de service, au lieu de laisser tomber et d'attendre la retraite, avait mis les bouchées doubles. Il voyageait beaucoup en voiture, roulant seul sur des centaines de kilomètres d'un site à l'autre, rentrait à la maison exténué et s'écroulait dans son lit tout de suite après les repas. Son sommeil était de courte durée. La nuit, il se levait et se remettait à l'ouvrage. De toute façon, ses soucis l'empêchaient de fermer l'œil. Mais à en croire ma mère, l'usine n'était pas sa seule préoccupation. Il a toujours été quelqu'un d'angoissé, mais là, ça devient maladif. Il angoissait pour le travail, pour la vieillesse qui approchait, pour ma mère dès qu'elle avait le moindre rhume, et aussi pour moi. Il se réveillait en sursaut, convaincu qu'il m'était arrivé malheur. Il lui demandait alors de m'appeler, quitte à me sortir du lit. Elle le persuadait d'attendre quelques heures et faisait son possible pour le tranquilliser, le faire dormir, le faire ralentir. Son corps lui avait bien envoyé quelques signaux déjà, mais il ne savait pas vivre autrement que comme ça, en état d'alerte. L'obliger à se calmer, c'était comme le forcer à aller en montagne moins vite, en profitant de l'air pur et sans courir après personne. Dans l'homme que je découvrais à travers les lettres de ma mère, il y avait le père que je connaissais, mais aussi un autre qui m'intriguait. Je me rappelais la fragilité que j'avais entrevue chez lui, certains moments de désarroi qu'il s'empressait de me cacher. Quand je me penchais au-dessus d'une falaise et qu'il me retenait aussitôt par la ceinture. Quand je me sentais mal sur le glacier et qu'il était plus agité que moi. Je me dis que cet autre père, je l'avais toujours eu à mes côtés, mais je ne l'avais jamais remarqué parce que le premier prenait toute la place. Et je me mis à penser qu'un jour, je devrais, ou pourrais, lui donner une seconde chance. Mais ce jour partit en fumée, et avec lui toutes les possibilités qu'il renfermait. Un soir de mars 2004, ma mère m'appela pour me dire que mon père avait fait un infarctus sur l'autoroute. On l'avait trouvé sur une bande d'arrêt d'urgence. Il n'avait pas provoqué d'accident. Il avait même réussi à faire les choses dans l'ordre. Il avait mis ses feux de détresse, avait freiné et s'était garé sur le bas-côté comme s'il avait crevé un pneu ou était tombé en panne. Sauf que c'était son cœur qui avait lâché. Trop de kilomètres au compteur. Pas assez d'entretien. Mon père avait dû ressentir une forte douleur à la poitrine et comprendre, à temps, quel était le pépin. Sur la bande d'arrêt, il avait coupé le moteur, n'avait même pas détaché sa ceinture, était resté assis droit sur son siège et c'est dans cette posture qu'il avait été retrouvé, comme un pilote qui aurait abandonné la course. Une fin des plus grotesques pour quelqu'un comme lui, avec les mains sur le volant, et tous les autres qui le dépassaient. Ce printemps-là, je revins passer quelques semaines à Milan chez ma mère. Au-delà des formalités que nous devions régler, je sentais le besoin de passer un peu de temps avec elle. Après les jours agités qui avaient précédé l'enterrement, dans la période de calme qui suivit, nous découvrîmes, à ma grande surprise, que mon père avait pensé à sa mort. Et pas qu'un peu. Dans son tiroir, il avait laissé une liste d'instructions avec ses coordonnées bancaires et tout ce que ma mère et moi devions faire pour entrer en possession de ses biens. Étant donné que nous étions ses seuls héritiers, il n'avait pas eu besoin de faire un testament en bonne et due forme. Mais sur cette même feuille, il avait écrit qu'il laissait à ma mère la moitié de l'appartement à Milan, et pour moi il y avait « J'aimerais que Pietro ait la propriété de Grana ». Pas d'épitaphe, ni même une ligne d'adieu. Tout était froid, et pratique, et notarial. De cet héritage, ma mère ne savait presque rien. Nous nous imaginons souvent que nos parents se disent tout ce qui leur passe par la tête, surtout quand ils commencent à vieillir. Mais ces jours-là, je découvrais de plus en plus qu'après mon départ, tous deux avaient mené à bien des égards des vies séparées. Lui travaillait et il était toujours sur les routes. Elle avait pris sa retraite, faisait du bénévolat comme infirmière dans un dispensaire pour migrants, donnait un coup de main au cours de préparation à l'accouchement et passait plus de temps avec ses amis qu'avec mon père. Elle savait seulement que mon père avait acheté un morceau de terrain en montagne pour une bouchée de pain, l'année précédente. Il ne lui avait pas demandé son autorisation avant de dépenser cette somme, ni ne l'avait invité à venir voir l'endroit. Il y avait bien longtemps qu'ils n'allaient plus marcher ensemble. Et elle n'avait pas protesté, considérant que ça ne la regardait pas. En fouillant les papiers de mon père, je trouvais l'acte de vente et un plan cadastral. Lesquels ne m'aidèrent pas plus que ça. Il y avait une bâtisse agricole de 4 mètres sur 7 au milieu d'un terrain de forme irrégulière. La carte était trop petite pour situer l'endroit et trop différente de celle auquel j'étais habituée. Elle ne reportait pas l'altitude ou les sentiers, mais seulement les propriétés. Et même en la regardant bien, je n'arrivais pas à savoir s'il y avait des bois, des prés ou quoi que ce soit d'autre à côté. Ma mère dit « Bruno saura peut-être te dire où elle est. » Bruno. Ils marchaient toujours ensemble. Je ne savais pas que vous l'aviez revue. Évidemment qu'on l'a revue. C'est un peu difficile de ne pas se voir à Grana, tu crois pas ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Demandai-je. Même si, en réalité, je voulais dire « Et comment il va ? Il se souvient de moi ? A-t-il pensé à moi pendant toutes ces années autant que j'ai pensé à lui ? » Mais j'avais appris à poser les questions des adultes en demandant une chose pour en savoir une autre. « Il est maçon, » répondit ma mère. « Il n'est jamais parti. Bruno, mais où veux-tu qu'il aille ? À Grana, tu verras, il n'y a pas grand-chose qui a changé. » J'hésitais à la croire, parce que j'avais changé depuis le temps. Un lieu que l'on a aimé enfant peut paraître complètement différent à des yeux d'adultes et se révéler une déception. À moins qu'il ne nous rappelle celui que l'on n'est plus et nous colle une profonde tristesse. Je n'avais pas tant envie que ça de le savoir, je dois dire. Mais il y avait cette propriété qui me revenait et la curiosité fut la plus forte. Après une petite pause musicale, je vous retrouve pour la suite du chapitre 5 et de sa première partie.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Do 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 chibu chibu bo, do 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 chibu chibu bo, do 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 do. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, 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 do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do.
Suite du chapitre 5 des 8 montagnes de Paolo Cognetti. Fin avril, je montais seul à Grana, dans la voiture de mon père. C'était le soir, et en remontant la vallée, je ne pouvais voir que le périmètre qu'éclairaient mes phares. Je notais quand même bien des changements. Les endroits où la route avait été refaite et élargie, les filets de protection au-dessus des escarpements, les troncs abattus en tas. Quelqu'un s'était mis à construire de petites villas d'inspiration tyrolienne, et un autre à extraire le sable et le gravier du fleuve, lequel se trouvait contenu entre des berges de ciment, là où autrefois il courait au milieu des rochers et des arbres. Les résidences secondaires plongeaient dans le noir, les auberges fermées pour la basse saison, voire pour toujours, les décapeuses à l'arrêt et les tractopelles avec leurs bras plantés contre terre donnaient au village un air de décadence industrielle, comme si chantiers restaient en plan pour cause de faillite. Je me laissais un peu miner par ces découvertes quand quelque chose attira mon attention. Et je penchais la tête sous le pare-brise pour regarder plus haut. Dans le ciel nocturne, des formes blanches renvoyaient comme de la lumière. Je mis un moment avant de comprendre que ce n'étaient pas des nuages, mais les montagnes encore enneigées. J'aurais dû m'y attendre en avril. Mais en ville, le printemps était bien avancé et je n'étais plus habituée à reculer dans les saisons en prenant de l'altitude. La neige des cimes me consola des misères du fond de la vallée. Je me rendis compte dans la seconde que je venais de refaire un geste typique de mon père. Combien de fois l'avais-je vu en voiture se pencher en avant et lever les yeux vers le ciel? Pour contrôler la météo ou étudier le versant d'une montagne, ou en admirer simplement le profil au passage. Il posait les mains sur le haut du volant et s'appuyait la tempe dessus. Et je répétais encore ce geste, mais en m'appliquant cette fois.
en me mettant dans la peau de mon père à 40 ans. Il venait à peine d'entrer dans la vallée, avec une femme assise à côté et un fils sur la banquette arrière, à la recherche d'un endroit qui ferait pour les trois. J'imaginais mon fils qui dormait. Ma femme m'indiquait les villages et les maisons, et je faisais semblant de l'écouter. Mais dès qu'elle avait la tête tournée, je me penchais et levais les yeux, obéissant à l'irrésistible appel des sommets. Plus ils étaient imposants et menaçants, et plus ils me plaisaient. La neige, là-haut, valait toutes les promesses. Oui, peut-être que sur cette montagne, il y aurait un endroit qui serait bien pour nous. La petite route qui menait à Grana avait été goudronnée, mais pour le reste, ma mère avait raison. Rien ne semblait avoir changé. Les ruines étaient toujours là, tout comme les étables, les granges et les tas de fumier. Je garais la voiture là où je me rappelais et entrais à pied dans le village plongé dans le noir. Guidé par le grondement de l'abreuvoir, je retrouvais dans l'obscurité les marches de l'escalier, la porte de la maison, la grosse clé en fer dans la serrure. À l'intérieur, une odeur familière d'humidité et de fumée m'accueillit. Dans la cuisine, j'ouvris le poêle et trouvai un petit tas de braises encore incandescentes. J'y jetai le bois sec posé à côté, puis soufflai jusqu'à ce que le feu reprenne. Même les torboyaux de mon père étaient là où ils avaient toujours été. Il avait l'habitude d'acheter une grosse bouteille de grappa pure qu'il aromatisait dans des bocaux plus petits, avec les baies, les pignons et les herbes qu'il trouvait en montagne. Je choisis un bocal au hasard et me versai deux doigts d'eau-de-vie, histoire de me réchauffer un peu. Elle était horriblement amère. De la gentiane, peut-être. Et je m'assis à côté du poêle, mon verre à la main, me roulai une cigarette, puis attendis que les souvenirs remontent à la surface en fumant et en regardant la vieille cuisine autour de moi. Ma mère avait fait du beau travail en 20 ans. Partout où je posais les yeux, elle avait laissé sa marque, celle d'une femme qui avait les idées claires sur ce qui rend une maison accueillante. Elle avait toujours adoré les cuillères en bois et les casseroles en cuivre, et détesté les rideaux qui empêchaient de regarder dehors. Sur le rebord de sa fenêtre préférée, elle avait mis un bouquet de fleurs séchées dans une cruche, la petite radio qu'elle écoutait à longueur de journée, et une photo de moi et Bruno, où nous étions assis dos à dos sur une souche de mélèze, sans doute à l'alpage de son oncle, avec nos bras croisés sur le torse et des airs de dur. Je ne me souvenais pas du moment où elle avait été prise, ni du photographe, mais nous portions les mêmes vêtements, prenions la même pose ridicule, et n'importe qui y aurait vu le portrait de deux jeunes frères. Je pensais moi aussi que c'était une belle photo. Je finis ma cigarette et jetai le mégot dans le feu. Je pris le verre vide et allai pour le remplir quand je vis la carte de mon père, toujours épinglée au mur, mais bien différente de celle de mes souvenirs. Je m'approchai pour l'observer plus en détail. J'eus aussitôt la nette sensation que tout en restant ce qu'elle était, la carte des sentiers de la vallée, elle était devenue comme quelque chose d'autre, quelque chose comme un roman, ou peut-être même une biographie. Après 20 années passées à marcher, il n'y avait pas un sommet, pas un alpage, pas un refuge où le feutre de mon père n'était allé. Et l'entrelac des parcours formait un filet si resserré que seul lui pouvait déchiffrer ce plan. Mais il n'y avait pas que du noir. Le trait était parfois doublé de rouge, parfois de vert. D'autres fois encore, le noir, le rouge et le vert allaient tous les trois ensemble, même si la plupart du temps, le noir traçait tout seul des boucles interminables. Il devait forcément y avoir un code, et je restais devant, à tenter de le décrypter. Après un moment de réflexion, j'eus l'impression de me retrouver devant une de ces énigmes que mon père me posait quand j'étais petit. J'allais remplir mon verre et retourner observer la carte. Si c'était un problème de cryptographie comme ceux que j'avais étudiés à l'université, il me fallait d'abord chercher la récurrence la plus fréquente et la plus rare. La plus fréquente, c'était le noir tout seul. La plus rare, les trois couleurs ensemble. Ce sont elles qui m'aidèrent à trouver la clé. Parce que je me rappelais très bien l'endroit où nous nous étions retrouvés bloqués sur le glacier, mon père, Bruno et moi. Le rouge et le vert finissaient à ce point précis, alors que le noir continuait. Je sus ainsi que mon père était revenu terminer l'ascension. Le noir, c'était forcément lui. Le rouge l'accompagnait de 4000 en 4000. Ça ne pouvait donc être que moi. Et le vert, par exclusion, c'était Bruno. Ma mère me l'avait bien dit qu'ils allaient marcher ensemble. Je vis qu'il y en avait beaucoup, des sentiers noirs et verts. Peut-être même plus que des noirs et rouges. J'en fus un peu jaloux. Mais pas moins soulagé quand même de voir que pendant toutes ces années, mon père n'était pas allé seul en montagne. L'idée me vint alors que cette carte épinglée au mur pouvait, par quelque moyen détourné, être un message qu'il m'adressait. Plus tard, j'entrai dans mon ancienne chambre, mais elle était trop froide pour y passer la nuit. Je sortis le matelas du lit, le posai dans la cuisine et étalai mon sac de couchage dessus. Je gardai ma grappa et mon tabac à portée de main. Avant d'éteindre la lumière, je remplis le poêle de bois et restai longtemps éveillé dans le noir, à l'écouter brûler. C'était Chantal Hébert sur Globule Radio pour Je vous emmène. Je vous retrouve mercredi pour la suite du chapitre 5 et sa deuxième partie, Des 8 montagnes de Paolo Cognetti. Bon week-end !